7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, croissance des villes en Afrique, spéculation dans les périphéries, car les villes africaines n'en finissent pas de s'étaler horizontalement. On le disait juste avant le flash avec vous, Thierry Paulet, ça coûte plus cher d'ailleurs en frais de fonctionnement, notamment l'assainissement, la tuyauterie, les transports, voilà, tous les équipements de la ville. Mais c'est pas le principal sujet de l'émission. On veut surtout parler du business dans les banlieues africaines. Notre numéro de téléphone, vous êtes très nombreux à nous appeler pour réagir au reportage que nous diffusons à Ouagadougou et qui concerne en fait une situation généralisée sur le continent. 33 1 84 22 71 71. Alors, comment on passe d'une urbanisation sauvage, informelle, à des lotissements organisés par l'État? Suite du reportage à Ouagadougou, au Burkina Faso, Alice Milo nous emmène maintenant à la cité relais de Bassincou. Alors là, c'est une zone de 250 hectares qui a été aménagée en lotissement depuis 2006 avec des parcelles délimitées, de la voirie, un réseau d'adduction d'eau, d'électrification. C'est le confort comparé aux zones non loties qu'on a découvertes juste avant le flash. Léon Paul Toé est directeur général de l'urbanisme et des travaux fonciers. Et il nous explique comment s'est passée l'attribution de ces parcelles. C'est le nerf de la guerre du logement.
Nous sommes dans un secteur de Ouagadougou, précisément à la cité relais de Bassincou, qui a été réalisée donc par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, où on a pu dégager autour de 2000 parcelles. À l'époque, on a procédé par un système de tirage au sort. Donc on a fait une souscription pour tout ce qui était intéressé. À l'époque, on a vendu 20 000, autour de 20 000 tickets de tombola pour la souscription. Et parmi ces 20 000, on a tiré donc au sort, en quelque sorte, les attributaires pour avoir la transparence dans ce genre d'opération, parce que effectivement, on a une pression très forte pour ce qui est problématique d'accès à la parcelle ici. C'est vraiment une formule neutre, il n'y a pas d'autres critères possibles pour avoir une parcelle dans nos cités relais.
Depuis 2011, vous avez arrêté, vous avez mis un frein à la construction des lotissements. Pourquoi vous avez arrêté de faire ces fameux lotissements dans lesquels on se trouve là actuellement?
On s'est rendu compte que ça alimentait la spéculation. Ça dit que les premiers qui étaient attributaires de ces parcelles, au lieu de construire leur demeure, les gens les revendaient parce qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin de parcelles. Ça alimentait une spéculation foncière.
Les gens s'enrichissaient vraiment avec cette spéculation sur les parcelles?
Mais bien sûr, bien sûr. Puisque les lotissements, tels que je vous ai dit, exécutés par les maires, les parcelles sont données gratuitement. Les gens payaient juste des frais de souscription, c'est tout. Mais la parcelle, elle était donnée gratuitement, immédiatement après une attribution. Les gens pouvaient revendre la même parcelle 10, 20 fois ce que ça leur a coûté. Ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté 75 000 pour souscrire. Il est attributaire. Il revend aussitôt après, sans mise en valeur, sans quoi que ce soit, à 1 million. Voilà. Et ça a fait courir beaucoup de monde à Ouagadougou. Et c'est ça qui explique en partie les difficultés qu'on a justement dans le traitement des zones d'habitat spontané. Et ça, c'est une de nos réalités qui nous a complètement piégés. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, c'est l'État qui est perdant, c'est la collectivité qui perd. Compte tenu de la taille que Ouagadougou a atteint aujourd'hui, Bobo également, on a dit que dans ces deux villes principales, on arrête le lotissement. On arrête parce que il y a déjà au moins 40% des parcelles produites à Ouagadougou qui ne sont pas mises en valeur. On a proposé une nouvelle méthode d'approche. Quand on vous donne une parcelle, vous avez 5 ans pour construire la maison. Donc, on impose au moins aux gens de ne pas revendre la parcelle avant les 5 ans.
Alors face à ces pratiques spéculatives, le gouvernement a décidé d'une autre stratégie pour gérer le problème du logement à Ouagadougou. Explication maintenant avec Yombi Ouedraogo, qui est directeur de cabinet du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme.
Ici, on est à Bisguin, plus précisément au nord du Ouaga. Et c'est une zone d'habitat spontané de 503 hectares avec une concentration humaine d'environ 10 000 âmes. Raisonnablement, si on veut faire le lotissement classique que nous connaissons là, c'est impossible de satisfaire la moitié même de la demande. C'est impossible. La collectivité ne peut pas le faire.
Ils iraient où les autres alors?
C'est ça la grande question. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas lotir cette zone comme nous le faisons initialement. Donc du coup, on peut être dans une dynamique de restructuration urbaine. On peut se dire, bon voilà, les gens sont dans cette zone. On ne peut pas faire le lotissement classique, dire qu'on va donner 200 m² ou bien 300 m² à chaque ménage. Pendant longtemps, on a fait ça. On a fait croire aux gens que forcément chacun doit avoir une parcelle. Mais l'espace n'est pas extensible à souhait. Il y a un moment, il y a des contraintes. Il faut essayer de revoir la vision. Il faut qu'on soit dans une logique où on peut vraiment, d'abord à travers le programme, améliorer les conditions de vie des populations. Vous savez que la démarche de ONU Habitat, c'est aller contre les déguerpissements forcés des populations. Mais ONU Habitat dit qu'on peut améliorer les conditions de vie de ces populations en attendant de trouver des solutions définitives à ces questions. Vraiment, les eaux usées ne sont pas traitées. Le minimum, c'est de pouvoir trouver des infrastructures d'assainissement pour accompagner quand même l'installation des populations dans ces zones.
Quand est-ce que vous allez commencer les travaux ici alors?
Courant 2014.
C'est des solutions qui sont viables à court terme, mais à long terme, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans?
La question peut être réglée autrement, dans cette zone. 80%, il y a beaucoup d'habitations ici qui sont des habitations sans toit, des concessions sans toit. Véritablement, il n'y a pas de gens dedans. Les gens ont construit. Ils attendent qu'on dise qu'il y a un recensement, ils viennent, ils dorment dedans, ou bien ils font venir la grand-mère du village, elle est là, et puis bon, on vient, on recense la grand-mère, on lui attribue un numéro, il vend ça, et puis il envoie la grand-mère au village. Mais si la population coopère avec la collectivité aussi, on peut savoir qui est réellement résident, qui est vraiment dans le besoin.
Oui, mais il ne s'agit quand même pas de la moitié de la population.
Ça reste à vérifier, mais je demeure convaincu que plus de la moitié des maisons que nous avons ici, là, c'est des maisons alibi.
Vous misez là-dessus, en fait?
C'est des maisons alibi. Nous avons fait une observation satellitaire. Et nous avons constaté qu'il y a 80% des maisons sont des maisons alibi.
Voilà, les maisons alibi pour alimenter la spéculation immobilière dans les banlieues africaines. On en discute avec vous, Thierry Paulet. Vous êtes urbaniste et économiste, directeur adjoint au département Afrique de l'Agence française de développement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'État tâtonne pour trouver la juste politique, la juste position pour diriger des logements sociaux et est très tenté de se désengager de programmes sociaux sous prétexte que justement ça crée encore plus d'appels d'air et de spéculation.
Oui, alors je dois dire que je suis pas de l'avis de mon collègue qui est directeur de l'urbanisme de Ouagadougou, enfin du Burkina Faso. Je pense que c'est pas du tout la bonne méthode d'arrêter de faire de la production foncière ou des lotissements au prétexte que ça alimente la spéculation. Parce que la spéculation, elle découle d'une situation de pénurie. Il y a spéculation parce qu'il n'y a pas assez de terrain et il n'y a pas assez de logements pour les gens. Donc plus on restreint la demande, plus la spéculation augmente. Donc c'est en quelque sorte se tirer une balle dans le pied que de dire, puisqu'il y a de la spéculation, on arrête tout. Et si on arrête tout, à ce moment-là, les gens se remettent à faire des lotissements spontanés. On retombe dans un circuit négative, dans une spirale négative. Et puis il y a autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que ces lotissements que faisaient, qui étaient faits à Ouagadougou, ils étaient donnés gratuitement. Alors là aussi, c'est tout à fait, évidemment, c'est sympathique, c'est très sympathique pour les gens qui les reçoivent, qui arrivent à les quelques privilégiés qui se font attribuer des parcelles gratuitement.
Partir
pour eux, c'est très bien. Mais c'est pas comme ça que on peut financer une urbanisation à long terme. Pour que les villes et pour que les États arrivent à financer les besoins en matière d'urbanisation, il faut qu'ils aient des ressources. Et s'ils commencent à distribuer les terrains gratuits, c'est certain qu'ils n'auront pas
les
ressources.
Ou en tout cas pour des très petites sommes. Alors justement, puisque vous parlez de l'attribution des parcelles, à quel prix, quand c'est l'État qui se charge de cette attribution, je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. On est en ligne avec Souma Oro, qui est à Adjamé, un quartier d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Souma Oro.
Bonjour madame.
Vous avez donc dit au Standard que vous représentez une association de consommateurs, c'est bien cela?
Oui, je suis le président du conseil d'administration de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil. Je voulais intervenir dans cette émission d'abord pour apporter des éclairages et des contradictions aux propos de monsieur le ministre de la construction de mon pays lors de votre passage à Abidjan.
On a fait il y a quelques jours, effectivement, sur RFI, en public, une émission consacrée aux logements sociaux en Côte d'Ivoire.
J'étais au nord de mon pays pour procéder à la passation des charges entre un président sortant et puis le président entrant qui a fait que je n'ai pas pu être à cette émission.
Bon.
Mais quand j'ai écouté l'émission, j'étais révolté. Parce que je m'inscris en faux quant au propos de monsieur le ministre de la construction, surtout des logements sociaux. Madame, voilà ce qui s'est passé dans mon pays. Et le gouvernement a lancé une idée à travers le président de la République, une opération qu'on appelle opération logements sociaux pour les économiquement faibles. Et comme dans mon pays, au temps de Fouy-Boigny, il y avait deux sociétés d'État, Sikoji, la Sogefia. En son temps, ça a permis à des économiquement faibles d'être propriétaires de maisons à travers des locations-ventes. Donc la version originale de cette opération était des maisons locations-ventes au profit des économiquement faibles.
C'est ça, où les gens pouvaient devenir propriétaires au fil des années en payant les loyers.
De 10 ans, 15 ans, vous devenez propriétaire de maisons. Alors, il y a eu un engouement à Abidjan, madame. À partir de 3h du matin, il y avait des rangs devant les locaux de la Sikoji, qui est une société d'État, pour s'inscrire. Alors, 60 000 souscripteurs, et chaque souscripteur a déboursé 30 000 francs.
Ça, ce sont pour les frais de dossier, pour se voir ensuite éligible et avoir la chance d'acheter donc une maison qui coûte entre 5 et 20 millions de francs CFA, pas vraiment accessible aux plus modestes.
Voilà.
Mais où voulez-vous en venir ? Alors, quel est le problème ? Parce que c'était clairement énoncé, ces règles-là.
On a été arnaqué par le ministère de la Construction. On a été arnaqué par le ministère de la Construction parce que dès que ceux qui ont eu leur numéro, on leur prend des dossiers, on dit vous allez voir M. Tan qui est un opérateur privé qui doit réaliser votre maison. Quand ce monsieur vous reçoit dans son bureau, il vous dit effectivement, voilà, moi je construis votre maison à hauteur de 8 millions, mais vous devez m'apporter 4 millions d'abord comme apport personnel. Et après, les autres 4 millions, vous devez les payer en 4 ans avant que je ne vous remette les clés de votre maison.
Mais ça n'a jamais été secret, ça. Ça a toujours été expliqué, ça.
Je suis dans une maison que j'ai payée déjà, et on me demande de payer une autre maison, donc on ne m'a pas encore remis les clés.
Alors donc il y a des gens, attendez, il y a beaucoup de monde qui appelle au standard, Soumaro, je suis désolée, beaucoup de voisins veulent témoigner des problèmes de logement dans leur ville. Ce que vous reprochez finalement au programme de logements sociaux gouvernemental en Côte d'Ivoire, c'est que les gens découvrent, parce que peut-être ils ne se sont pas bien renseignés, qu'ils ne sont pas éligibles au programme pour accéder à une maison parce que ça va leur coûter trop cher, qu'ils n'ont pas les sommes disponibles, et que donc du coup ils perdent leurs frais de dossier de 30 000 francs CFA, c'est ce que vous voulez dire. Mais le ministre avait bien expliqué dans l'émission qu'on pouvait se faire rembourser de ces frais de dossier, surtout si on n'accédait pas à la maison, jamais.
Oui. Et ce n'est pas parce qu'ils ont été mal informés, non. Le projet, une fois, a été mis, remis au ministre, a pris une déviation. Ce projet initial, version Niale Kaba, elle était très bonne. Voilà. Bon. Maintenant, dès qu'il y a eu changement du ministère, nous, on n'a plus retrouvé ce projet-là. Je suis désolé de le dire. Alors, plus
d'accord.
De 60% demandent leur remboursement.
C'est ça, et ne l'ont toujours pas obtenu. Merci beaucoup, le remboursement de ces frais de dossier qui, effectivement, mis bout à bout, fait pas mal d'argent pour les sociétés immobilières. Merci beaucoup pour ce témoignage, Soumaoro. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un voisin de Kaolack au Sénégal. Bonjour, Babacar.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux 7 milliards de voisins.
Vous êtes à 190 km au sud-est de Dakar, hein, Kaolack, pas grande ville, hein, sixième ville du Sénégal, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Et malgré tout, vous avez des problèmes de spéculation sur les logements dans une ville comme Kaolack?
Oui, parce que ici, notre municipalité avait sollicité des commerçants et même des hommes d'affaires pour financer ces lotissements, parce qu'elle n'a pas d'argent à Gtel pour une municipalité qui draine des milliards de budget par année. Donc, en contrepartie, elle avait légué des hectares de terre à ses soi-disant promoteurs immobiliers.
Attendez, qu'est-ce que vous entendez par léguer ? Elle ne les a pas donnés à des promoteurs immobiliers ?
C'est ça, parce que...
Elle les a vendues.
Pas du tout, parce que la mairie devait lotisser. Donc, elle a dit qu'elle n'a pas les moyens de financer le lotissement, donc elle s'est liée avec des promoteurs véreux qui disent qu'ils vont financer les lotissements et en contrepartie vont recevoir...
Vous sous-entendez finalement que la commune se fait arnaquer et donc indirectement les habitants parce que c'est trop laissé au secteur privé, hein, si je comprends bien votre témoignage, Babacar.
La mairie était en connivence avec ses gens. C'est un deal qu'ils ont organisé parce qu'ils ne pouvaient pas, en tant que des agents de la mairie élus par les populations, directement dire qu'ils ont des
d'accord.
hectares de
terre. Donc vous parlez carrément de connivence entre la mairie de Kaolack et les promoteurs immobiliers qui se chargent ensuite de commercialiser ces terrains avec des constructions dessus. Merci beaucoup Babacar pour ce témoignage. Si le maire de Kaolack veut réagir, il est libre. 33-1-84-22-71. Quelques réactions tout de même, Thierry Paulet, pour prendre un peu de hauteur sur cette véritable effervescence dans les périphéries urbaines en Afrique. Là, d'ailleurs, on voit l'exemple d'une petite ville qui semble également prise en étau par un manque d'offres de logement.
Oui, et d'ailleurs, il faut souligner à ce propos que sur le continent, maintenant, l'essentiel de la croissance urbaine a lieu non pas dans les grandes capitales, mais dans les villes moyennes.
Il faut s'en réjouir ou pas ?
Il faut probablement s'en réjouir parce que il faut même certainement s'en réjouir parce que ça permet quand même de déconcentrer, d'enlever un peu de pression sur les grandes métropoles et donc ça permet de mieux répartir la population sur le territoire. Mais d'un autre côté, il est certain que les municipalités, les pouvoirs locaux des villes moyennes ou des petites villes sont assez démunis à la fois en moyens humains et en moyens matériels pour organiser la croissance urbaine. Donc on assiste effectivement en périphérie des villes moyennes, voire même des petites villes, à des phénomènes d'installations chaotiques, de spéculation, enfin toutes les aventures qu'on décrit
Pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, là, comment vous réagissez par rapport à ce glissement programmes sociaux, ça s'appelle toujours comme ça, qui sont en fait accessibles surtout à une classe moyenne?
Oui, bon alors je ne sais pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire précisément avec
avec les 30 000, de 200 000 logements.
Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé à propos des 30 000 CFA de
ça fait 45 euros à peu
de
près.
De frais d'inscription, mais il y a effectivement ce qu'on appelle logement de façon générale, ce qu'on appelle logements sociaux en Afrique. En fait, ça concerne plutôt du logement pour les classes moyennes supérieures, et surtout ceux qui ont des revenus réguliers. Donc ça exclut de fait la plupart des gens qui n'ont pas de salaire, qui ne sont pas salariés, qui ne sont pas fonctionnaires.
C'est une tendance qu'on retrouve dans la majorité des pays africains.
Dans la quasi-totalité des pays africains, c'est évidemment pour un financeur, pour un banquier, pour quelqu'un qui fait des opérations immobilières, le fait d'avoir en face de soi un client qui a des revenus réguliers, c'est une sécurité. Et donc toute la gamme de ce qu'on appelle logements sociaux se déplace vers cette catégorie de
Alors comment cohabitent l'État, le secteur privé et puis les habitants? On laisse la parole à un habitant de Ouagadougou qui veut réagir au reportage qu'on a diffusé. Vous nous appelez Charles au 33-1-84-22-71-71. Bonjour Charles.
Bonjour voisin.
On vous écoute.
Alors écoutez, le sujet est vaste. Moi, j'habite Karpala, qui est une banlieue assez éloignée du centre-ville de Ouagadougou. Mmh. Et ça fait très peu de temps, en fait, que je suis arrivé à Karpala. J'étais au centre-ville avant. Et là, depuis 3 mois que je suis là, je vois les parcelles autour de moi qui poussent comme des champignons. Il y a des maisons partout. Alors, qui ne sont pas forcément habitées, qui ne sont pas forcément finies. Il y a des constructions en dur qui se construisent, mais il n'y a pas le toit. Ou alors, il y a juste les fondations. Mais ça construit, c'est incroyable, ça construit de partout. J'habite pas dans les non-lotis. Nous avons l'électricité, l'eau. Mm. Par contre, c'est vraiment le strict minimum qu'on a. On n'a pas d'évacuation d'eau, on n'a pas d'évacuation de toilettes. Tout s'en va dans la rue. Les poubelles, il n'y a pas de ramassage de poubelles parce que évidemment, ça ne suit pas parce que ça construit tellement vite que les infrastructures n'arrivent pas à suivre.
C'est ça, les infrastructures n'arrivent pas à suivre, la croissance urbaine va trop vite, d'autant plus que, comme on est dans un étalement urbain, les infrastructures sont beaucoup plus longues à installer, Thierry Pollet.
Oui, exactement. Et alors,
parce qu'il faut plus de tuyaux, c'est ça ? Plus c'est étalé.
Tout à fait, moins c'est dense, plus ça coûte cher, pour faire simple. Et là, le problème qu'il y a dans le problème qu'on trouve dans beaucoup de villes, dont Ouagadougou, dont les PFI de Ouagadougou, c'est que, en principe, il faudrait faire des infrastructures avant. Bon, quand quand il n'y a pas les capacités d'investissement, on les fait pas. Mais l'organisation du sol, elle, devrait être prévue. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas laisser les gens s'installer de façon chaotique, parce que après, ça devient beaucoup plus cher de réaménager.
De creuser des tranchées, etc.
De creuser des tranchées, de déplacer les gens, de faire, quand il n'y a pas de route du tout qui ont été prévues, quand il n'y a pas d'emprise, quand il n'y a pas d'emprise pour les équipements publics, on ne peut pas intervenir a posteriori, ou du moins, si on intervient a posteriori, ça coûte beaucoup plus cher, il faut déplacer des gens. Donc, il faudrait
au moins. Message pour les communes et les États.
Oui, il faudrait au moins que la puissance publique puisse être en avance au niveau de la planification, même si après, en matière d'infrastructure, ils ne peuvent pas intervenir tout de suite.
33-1-84-22-71-71, la parole est à Jean-Paul à Libreville, au Gabon. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour, 7 millions de voisins.
On vous écoute.
Oui, je voudrais partager ce que nous vivons ici, qui est presque la même réalité que chez les autres. C'est que ici chez nous, à Libreville, au Gabon, il y a 10 ans, 15 ans, le Gabonais ne pensait pas vraiment construire ou avoir un terrain. Mais depuis là, tout le monde veut construire et ça va dans tous les sens. Donc l'accroissement est de plus en plus grand, l'accroissement de la population. Et puis il y a en même temps l'exode rural, dû au fait que il y a une politique de décentralisation qui n'est pas tout à fait respectée, ça a des mises en pratique. Elle existe mais n'est pas respectée. Alors tout le monde veut venir à Libreville pour chercher du travail, pour réussir, pour faire un papier, ainsi de suite, et tout le monde veut y rester. Alors, ce qui fait que Libreville devient de plus en plus une petite ville, et tout le monde veut construire. Et ça va au-delà, et il n'y a pas de politique qui suivent. Parce que je me rappelle, au début du quinquennat de notre chef de l'État, il a pris des mesures dans le sens de l'urbanisme, mais il n'y a pas eu de suivi par rapport à ceux qui doivent appliquer. Ce qui fait que c'est les populations elles-mêmes qui construisent, qui prennent les terrains, qui se vendent de plus en plus cher aujourd'hui, et qui construisent, et ce n'est qu'après que l'urbanisme vient, le cadastre vient pour chercher à tracer les routes, à porter l'eau, à porter les...
Merci Jean-Paul pour ce témoignage en direct de Libreville au Gabon, qui était une petite ville effectivement à l'origine, alors en plein bouleversement immobilier, là aussi ça va extrêmement vite. Thierry Pollet, est-ce qu'il est possible finalement d'avoir un programme qui concerne toutes les couches de la population et un programme un peu en amont pour la puissance publique quand on voit la rapidité de la croissance urbaine dans ces villes africaines?
C'est en tout cas l'objectif qu'il faut poursuivre, parce que il n'y a pas de bonne politique de l'habitat qui s'adresserait qu'à une catégorie de la population. Je m'explique. C'est une erreur qui a souvent été faite, y compris par des bailleurs de fonds d'ailleurs, de vouloir faire par exemple des programmes d'habitat pour les populations les plus démunies. Ce qui est très bien. Mais si dans le même temps on ne traite pas la question de l'habitat des classes moyennes supérieures y compris des riches, ce qui se passe à la fin, c'est il se passe le phénomène que décrivait le directeur de l'urbanisme à Ouagadougou. Les gens revendent leurs parcelles sous la pression. Les plus riches se débrouillent toujours pour récupérer. Ils ont aussi besoin de se loger et donc ils récupèrent toujours les terres.
Alors globalement, ce qui est certain, c'est que point commun entre les riches et les pauvres, tout le monde veut être propriétaire. Est-ce que c'est possible à l'heure actuelle avec une telle croissance urbaine?
Non. La réponse est clairement non, et c'est un aveuglement de l'esprit de penser ça. Je sais bien que tout un chacun veut être propriétaire, je le répète, c'est normal. Mais regardons ce qui se passe même dans les pays européens les plus développés. En Allemagne, en Suisse, en Hollande, la moitié des gens sont locataires. Ça n'a rien de, il n'y a pas une corrélation entre le fait d'être un pays de locataire et d'être un pays pauvre. Il y a une sorte d'aveuglement idéologique en faveur de la propriété, et on part d'une situation en Afrique où pratiquement 75% du parc est en fait du parc d'habitat, je veux dire, est en fait du locatif. C'est peut-être pas le cas à Ouagadougou, mais sur l'ensemble du continent, c'est ça la moyenne. Donc
c'est du locatif informel. la plupart du temps.
La plupart du temps, c'est du locatif informel, c'est du locatif
Donc, la solution, ce serait de formaliser ce locatif informel avec une intervention de l'État et davantage de régulation du marché.
Voilà, il faudrait, enfin, c'est une des pistes, en tout cas, pour produire du logement, c'est de favoriser la promotion immobilière privée, la promotion à but locatif privé, en incitant, mais en l'encadrant. Il faut encadrer les relations propriétaires locataires qui sont extrêmement dérégulées et souvent violentes, il faut le dire, dans les pays africains, dans la majorité des pays africains.
Avant qu'on se quitte, je voudrais vous lire le message de Marco qui est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. À Lubumbashi où j'habite, avoir son lopin de terre est une question de vie ou de mort. On s'arrache des terrains comme des petits pains. Il n'est pas rare de voir deux, voire trois, voire quatre personnes se disputer le même morceau de terre et se le faire arracher par un cinquième beaucoup plus fort. Ces nouveaux quartiers, entre guillemets, ne sont tout simplement pas habitables. Les rues ne respectent pas les pentes pour l'écoulement des eaux. Certaines rues se terminent en cul-de-sac, aucun réseau de distribution d'eau ou d'électricité, pas de marché. C'est à se demander si l'État existe vraiment dans ce pays. Voilà, on a entendu plusieurs situations finalement très différentes, hein, mais les problèmes sont là. Merci beaucoup à vous Thierry Paulet, je précise que vous appartenez à l'Agence française de développement. On peut retrouver votre livre « Financer les villes africaines », ça va être le gros problème dans les années à venir, hein, à télécharger sur le site afd.fr. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, un autre sujet, faut-il en finir avec les stéréotypes hommes-femmes ou bien au contraire croire aux différences entre les sexes? Je parle pas des différences physiques évidemment, je parle, vous savez, on dit le courage des hommes, l'intuition féminine des femmes. Vos points de vue dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. À demain, même heure, même endroit. Merci pour votre fidélité.